on peut peut-être commencer la conversation par quelque chose de très simple, c'est-à-dire Thomas, peut-être nous expliquer un petit peu à la fois la place de ce film dans la filmographie de Kiyoshi Kurosawa et peut-être aussi plus loin dans ce qu'on appelle la J-horreur, c'est-à-dire l'horreur japonaise, qui notamment connaît un certain essor à la fin des années 90. Donc voilà, pour faire un premier panorama, et puis ensuite on entrera un peu plus précisément dans les entrailles du film.
Ouais. Donc Cairo, c'est le 10e long métrage de Kiyoshi Kurosawa pour le cinéma, et en tout c'est son 22e film long, si on compte ceux qu'il a réalisés pour la télévision et pour ce qu'on appelle le V-cinéma, c'est-à-dire le marché de la VHS au Japon. Donc c'est pas du tout un jeune premier qui arrive sur la scène du cinéma d'horreur à la fin des années 90 et au début des années 2000, il est déjà très confirmé. En fait, il appartient à ce qu'on désigne comme une nouvelle vague japonaise qui commence au milieu des années 80, qui se réunit sur les bancs de l'université de Tokyo autour des cours d'un sociologue qui s'appelle Shigehiku Azumi, qui est en fait le traducteur et importateur de la French Theory au Japon. Donc c'est le traducteur de Foucault, de Derrida, etc. Et Kurosawa a toujours dit que sa première formation intellectuelle, elle n'était pas cinéphile, elle était d'abord du côté de la philosophie, du côté de la théorie, etc. Ceci étant dit, il a une place un peu particulière dans le cinéma japonais, puisqu'il est à la fois, disons, l'héritier d'une tradition moderniste, qui est celle des grands réalisateurs des années 60, type Oshima, Imamura, surtout Imamura, qu'il a toujours considéré comme un de ses maîtres, et d'une tradition du cinéma de genre typiquement américaine, puisque on pourrait dire que son trio, son carré d'as de cinéastes favoris, c'est Richard Fleischer, Don Siegel, John Carpenter, j'oublie le quatrième, bref, des cinéastes de genre, voire de série B américains. Et effectivement, Cairo est peut-être le film prototypique de ce croisement entre une dimension extrêmement réflexive et théorique de son cinéma. Vous l'aurez compris en voyant le film, que c'est un film qui parle d'images, qui parle de ce que deviennent les images à l'heure d'Internet, de ce que c'est qu'être dans une image, hein, on reviendra là-dessus au tout cours de la discussion, et en même temps c'est un film qui laisse la place à des dynamiques horrifiques, parfois très sophistiquées, mais surtout très efficaces, puisque je crois qu'on peut le dire, c'est un film qui fait quand même peur, voire parfois très peur. Alors c'est un peu la spécificité de la J-horror, qui est en gros, si vous voulez, une sorte d'OPA ou de hold-up qui a été fait par le cinéma japonais dans les années 90, à une époque où le cinéma d'horreur américain était arrivé à un moment de redite, si vous voulez. Hein, les années 90, c'est le moment où le cinéma d'horreur américain devient méta et réflexif. C'est Scream, c'est Freddy sort de la nuit de Wes Craven. C'est un moment où les codes du slasher, qui a été le genre dominant de l'horreur aux États-Unis, sont réutilisés, voire parodiés, pastichés. La J-horror, qui grosso modo démarre à la fin des années 80, c'est Kurosawa qui en est le précurseur avec un film qui s'appelle Sweet Home en 88, a pour spécificité de reprendre un peu le cinéma fantastique et cinéma d'horreur à ses bases, au sens où c'est un cinéma qui va se baser à la fois sur une modernisation des traditions d'horreur folklorique japonaise, mais remise au goût du jour et surtout placé dans un univers très technologique. Alors Cairo on est un exemple parfait, hein. C'est des fantômes, mais c'est des fantômes informatiques. Il y a un autre film qu'on pourra évoquer, ce que tu peux évoquer José parce que tu le connais mieux que moi, c'est Ring d'Hideo Nakata, qui est aussi un film de fantômes qui est lié aux images.
Alors, c'est quasiment le même film, voilà. Puisque c'est une histoire de virus, mais vous l'avez peut-être probablement vu ou au moins connaissez l'image un peu type du film, c'est un fantôme qui sort d'une télévision et qui attaque ceux qui regardent le film. Donc il y a un peu la même angoisse. Alors c'est intéressant ce que tu dis sur l'espèce d'OPA, sur le cinéma américain, parce que moi j'y vois une forme de continuité aussi, parce que, alors bon, c'est des films qui sont peut-être un peu moins connus, Scream c'est connu, mais Freddy sort de la nuit, c'est ça, qui donc s'inscrit dans la franchise de Frederick Krueger, de Wes Craven. C'est intéressant parce que c'est le retour de Wes Craven, il y a cette idée que le personnage horrifique est vraiment considéré comme un personnage du film, qui sort du film pour attaquer un peu les spectateurs, et il y a un peu la même logique dans Scream, puisque c'est ouvertement un tueur en série qui s'inspire de figures cinématographiques, qui lui-même sort d'un film. Il y a une scène assez claire là-dessus, d'ailleurs. Il y a une scène où il y a une caméra qui est incrustée dans une soirée avec un léger décalage. Et voilà, il y a vraiment cette idée de... Alors qu'en plus, passe en arrière-fond Halloween le Carpenter, mais il y a cette idée que les images reviennent et que maintenant, ce qui fait vraiment peur, avant tout, ce sont des figures de films d'horreur qui sont considérées comme des figures de films d'horreur. C'est-à-dire qu'il y a une dimension méta qui, là, se croise à quelque chose d'intéressant qui se produit au moment des années... fin années 90, qui est une forme d'angoisse pour la technologie profonde. Et le film va creuser quelque chose là-dessus qui n'est pas très loin de The Ring, mais qui est peut-être un peu plus retors. Vous verrez... Ah, je pense qu'en un moment, on va quand même aborder la question, c'est que c'est à la fois un film extrêmement précis, rigoureux sur certains aspects et très chaotique sur d'autres. Mais il y a quand même quelque chose qui me semble extrêmement précis dans le film, c'est la dynamique horrifique. Puisque qu'est-ce qui est le plus effrayant, qu'est-ce qui est l'horreur absolue en fin de compte dans le film, c'est d'être regardé. À proprement parler, c'est-à-dire presque le climax visuel du film, c'est l'apparition d'une paire d'yeux à la fin, avec ce fantôme qui se rapproche. Et puis, il y a évidemment cette scène de la danseuse au-dessus du canapé. Il y a aussi cette scène où on voit, je ne sais plus comment elle s'appelle, Junko, c'est ça, qui est face à une fantôme qui s'écarte les cheveux pour montrer ses yeux. Alors, on ne voit pas, ça reste hors champ. Mais voilà, l'horreur absolue, c'est d'être regardé. Et qu'est-ce qui se passe quand on est regardé? C'est exemplairement quand le personnage retire son sac poubelle sur la tête. Et bien, on est cadré. Et on devient image, puisque là, c'est un peu la logique fondamentale du film d'horreur, c'est que vous êtes en train de regarder un film, et puis finalement, c'est vous qui êtes regardé, renversement classique. Et là, il y a quand même cette idée assez folle de les personnages qui se reflètent dans une mime en abîme face à leur écran. Et à partir du moment où on est cadré, qu'est-ce qu'on devient? On devient une image, et à partir du moment où on devient une image, on se dématérialise. C'est ce que raconte le film, alors, sur un rapport peut-être un petit peu ambigu par rapport à la technologie, à l'apparition du numérique, puisque... c'est manifestement quelque chose qui intéresse Kurosawa, et je pense que Thomas t'en parlera très bien. Et en même temps, ça produit, alors, en surface, une forme d'allégorie qui serait un petit peu technophobe, ou un peu, carré, à savoir, le numérique, ça nous dématérialise, ça nous spectralise, et ça nous isole, grosso modo. Mais derrière ça, il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est que c'est aussi... un lieu d'expérimentation, et ça ouvre des possibles, notamment sur la figuration de l'horreur, puisqu'au début... vous l'avez sûrement remarqué, en fin de compte, il y a quelque chose de très classique dans la mise en scène horrifique, c'est-à-dire exemplairement, il y a la scène assez terrifiante de l'interrupteur qui s'éteint et qui se rallume, et entre-temps, une ombre a été remplacée par un corps. Mais ça joue sur une logique classique de film d'horreur, à savoir un plan séquence très cadré, avec des lignes qui permettent justement de ménager un fantastique, le franchissement de quelque chose qui serait surnaturel. Mais proprement parlé, ce sont des effets qui sont purement de cadrage, de montage, etc. Et puis, au fur et à mesure... il va y avoir une progression vers des effets plus plastiques, des incrustations, la montée du son aussi avec cette voix très inquiétante. Et alors là, bon, je te transmets un peu la parole de ça, parce que je sais que ça t'intéresse, c'est que même le rapport des corps horrifiques dans le film change à la moitié.
Oui, en fait, si vous voulez, il y a quelque chose d'intéressant dans le film, c'est que pendant presque une heure et demie, on nous promet de voir des fantômes informatiques et on voit des corps humains, qui n'ont pas particulièrement de traits distinctifs par rapport à des humains vivants, sinon qu'ils sont pâles et ils bougent pas, quoi. Enfin, c'est un peu ça. Or, il y a une scène qui est un peu clé pour comprendre la bascule qui va se jouer dans le film, c'est la disparition de Junko. Elle est donc chez son amie, elle devient une tache sur le mur, et cette tache se dématérialise en une myriade de petites cendres qui sont très clairement incrustées numériquement. Ça se voit que c'est pas la même matière, si vous voulez, à l'intérieur de l'image. Plus, effectivement, le fait de le voir en 35 renforçait, je dirais, le caractère un peu poreux de l'image de la pellicule par rapport aux effets numériques qui sont très floutés. Or, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tous les fantômes qui vont apparaître à la suite du film seront retouchés numériquement. Pour preuve, scène suivante, on voit le jeune, donc c'est celui qui porte des chemises hawaïennes, qui est dans une espèce de salle de jeu de pachinko. Il se retourne, il entend des bruits, il tombe sur une espèce de masse noire informe qui est une femme, mais qui est retouchée numériquement. C'est une sorte d'incrustation numérique à l'intérieur de l'image de la pellicule et qui change de forme. On ne sait pas très bien si c'est une femme, un homme, etc., etc. Et qui va aboutir au dernier fantôme, qui est lui complètement informatisé, qui a une voix robotique et qui avance par saccades avec un bruit. Alors pour ceux qui ont plus de 20 ans s'en souviendront, c'est les bruits des modems Internet. Qui chargeait les pages internet. Donc c'est littéralement un fantôme qui se charge à mesure qu'il avance. Est-ce que j'ai toujours du son?
Oui, il y a des petits...
Ouais. Donc, Que raconte le film en somme de sa première scène à sa dernière ? C'est la transformation à l'aube de la généralisation du numérique, donc au début des années 2000, d'une modalité de représentation des fantômes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre en regard, si vous voulez, deux scènes qui sont quasiment identiques du point de vue du dispositif. C'est la scène de la danseuse et c'est la scène donc, du fantôme informatique à la fin. Au fond, c'est la même scène, c'est-à-dire qu'on a un personnage qui est coincé dans un espace complètement carcéral, une sorte de pièce fermée sur elle-même, et un fantôme avance sur lui. Qu'est-ce qui se passe dans la première scène ? Le fantôme se meut comme une danseuse, et ce qui fait peur, littéralement, là-dedans, c'est cette espèce de déhanché bizarre qu'elle fait avec son genou, qui est extrêmement dérangeant dans la marche qu'elle fait vers la caméra. Mais ce qui est intéressant, c'est que surtout, cette scène est une citation explicite et quasiment recomposée plan pour plan de la grande scène d'horreur, d'un grand film d'horreur classique qui a posé les jalons du genre 50 ans avant Cairo, c'est Vaudou de Jack Turner. Et il y a exactement le même dispositif avec un personnage qui est une mort vivante, enfin une zombie, c'est-à-dire elle a été contaminée et donc elle n'a plus le contrôle de son corps, qui avance vers l'héroïne jusqu'à la terrifier. Voilà, c'est une scène d'horreur. La deuxième scène avec le fantôme informatique, c'est plus du tout la même dynamique qui est en jeu. Il n'y a plus la logique citationnelle qui était présente dans la première scène avec la danseuse. On retrouvait par exemple dans la composition du plan un triangle de lumière sur la gauche du cadre qui reproduisait exactement le triangle de lumière qu'on retrouvait dans la scène du film de Turner. Dans la deuxième scène, ce qui intéresse Kurosawa, c'est que tous les effets qui vont faire peur naîtront de l'utilisation du numérique. Ça va être le bruitage de la voix, ça va être le floutage des corps, et ça va être l'apparition très tardive, parce qu'il aura flouté numériquement le visage, des deux yeux, et comme tu le disais très bien, qui arrivent comme un climax, et viennent finalement dire au spectateur que l'aboutissement logique d'une scène d'horreur, c'est d'être regardé par celui qui n'est plus vivant, si vous voulez, par être regardé par des yeux morts.
C'est même un peu plus retors que ça, puisque si vous voyez tout le début du film, vous regardez un film d'horreur, mais vous regardez du point de vue du fantôme, puisqu'il y a tout ce plan derrière l'espèce de bâche du premier personnage qui est tué. Et puis il y a aussi cette scène très étrange de la serre, qui est filmée depuis derrière le grillage, et on a l'impression presque d'un voyeur qui regarderait la scène. Bon, ça c'est classique, hein, on voit ça dans Halloween de Carpenter, qui s'ouvre de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a un renversement entre celui qui voit et celui qui est supposé être regardé, enfin bref. Et le film va procéder comme ça, un espèce de jeu de va-et-vient. Alors, est-ce qu'à ce stade, il y a des premières questions, interrogations ?
Alors, juste une question par rapport à tout ce que vous avez dit. Quel est le rapport avec Hiroshima ? Parce que malgré tout, donc moi j'ai pensé à la technologie, puisque effectivement on est au début de la généralisation d'Internet et tout, et puis d'un seul coup, franchement, on se retrouve dans l'impact d'Hiroshima, en plus sur le Japon, quoi. La fin en plus avec l'avion qui se crache, les silhouettes sur les murs, etc. Donc c'est aussi ça, c'est pas seulement de se regarder, de se... voilà.
Non, mais c'est une bonne question, dans la mesure où... Déjà, c'est un problème dans le film. Parce que quand il est sorti en 2001, il est passé à Cannes et tout le monde a dit « Ah, c'est une allégorie d'Hiroshima ». Et Kurosawa a dit quasiment immédiatement « Ce film ne parle pas d'Hiroshima et je refuse qu'on pense que ça parle d'Hiroshima ».
Oui, mais il ne faut pas écouter les cinéastes.
Alors justement, il y a quand même un problème parce que tout renvoie à Hiroshima. Tout d'abord, effectivement, les taches sur les murs des fantômes, bon, bah, c'est, pour ceux qui le savent, c'est... C'est ce qui restait en fait des corps des gens qui ont été calcinés lors de l'explosion de la bombe. Et puis effectivement, il y a quand même ce plan de l'implosion de l'avion qui vient illuminer d'un flash blanc pendant une demi-seconde la totalité de l'écran et qui reprend effectivement l'image qu'on a tous de l'explosion de la bombe sur l'île d'Hiroshima et de Nagasaki. Moi, la manière dont je le perçois, c'est que ce que travaille le film à travers son usage du numérique, c'est de réaliser, grâce à des incrustations qui ne sont pas possibles avec des effets analogiques, c'est de recréer ce qui constitue le traumatisme refoulé de la totalité de la société et de la culture japonaise. Au fond, qu'est-ce que ça dit, ce rapport au numérique et cet isolement de personnes qui ne croient pas à la mort ? Parce que c'est aussi ça, le personnage du jeune qui ne connaît pas l'informatique, qui refuse la finitude qui, justement, est liée à la question d'Hiroshima. Bah, c'est que c'est une société qui a, refusé le retour du refoulé. le retour du refoulé au profit d'un aplanissement et d'une neutralisation totale de l'espace urbain.
Il y a autre chose aussi assez évidente, c'est le rouge, puisque alors le film est un peu grisâtre de prime abord, mais en fait il est tout
le
temps
désaturé,
soit en jaune, soit en rouge. Il y a une scène qui parle très bien de ça, puisque en fait il y a un rapport qui est paradoxal à la mort, et qui peut-être dépasse pour le coup un petit peu Hiroshima, irait plus loin sur l'ensemble de la société japonaise. C'est qu'à la fois il y a un refoulement de la mort qui est évident, en même temps la mort est partout, puisqu'on parle très naturellement de suicide, c'est un fait de société à proprement parler. Il y a une scène qui raconte très bien ça, c'est la scène du café au début, où même il y a des personnages qui disent « Ah oui, j'ai pensé au suicide en train de finir son café froid ». Et je ne sais pas si vous avez remarqué, alors d'une part, toute la scène est derrière une vitre, donc déjà les personnages sont cadrés, et surtout il y a du rouge partout. C'est-à-dire il y a un espèce de logo rouge, même le personnage derrière, le barista, est avec un tablier rouge, il y a du rouge sur la table, d'un coup il y a une espèce de contamination du rouge qui est absolument partout. Quelque chose que le film va travailler, puisque le rouge c'est aussi ce qui permet... Alors c'est un peu la couleur évidemment du traumatisme, de ce qui ressurgit, puis c'est ce qui permet d'ouvrir la porte. Il y a même des choses presque humoristiques là-dessus, c'est que fait le personnage pour enfoncer la porte de son ami, bah, il va prendre un extincteur d'incendie, c'est un peu le seul élément rouge du décor. Il y a plein de petits détails comme ça, plein de petits détails de mise en scène qui font que aussi quand on retrouve le corps du suicidé, tout de suite raccord sur un gyrophare d'une ambulance, etc. Enfin, il y a plein de petits détails comme ça. Voilà, donc évidemment les fantômes sont un retour du refoulé, mais en fait ils vont presque pénétrer l'espace, d'abord de manière complètement insidieuse, sans forcément d'apparition, mais simplement par des traces de couleurs ou par des choix de cadre aussi, puisque ce que je vous disais sur le cadrage, en fait dès le début il y a une manière en fin de compte de montrer qu'il y a quelque chose de dissonant et qu'il y a quelque chose qui pourrait surgir, et tous les personnages sont un peu spectralisés d'une certaine manière.
Ouais, ils sont tellement spectralisés que justement le suicide de Haruhi, si je ne me trompe pas, elle se tire une balle dans la tête, mais il n'y a pas de sang, si vous vous souvenez bien. Donc il n'y a pas de rouge qui sort du corps. Le rouge s'est déployé dans l'espace. Et d'ailleurs, c'est aussi, il y a, oui, y a un truc très intéressant d'ailleurs là-dessus. Les rares taches de couleur sont aussi ce par quoi les personnages vivants vont se connecter les uns les autres. Bon, par exemple, il y a la première scène de rencontre entre Haruhi et donc ce jeune homme qui ne connaît pas l'informatique. Ils sont dans une espèce de salle grise où tout le monde est affairé à son ordinateur, mais lui, il porte une chemise bleue et elle porte un pull bleu. Et puis, cette logique de couleur, elle va se déjouer au moment où Haruhi va être contaminé par le fantôme, avec cette scène que moi, je trouve très, très belle, où donc le jeune homme va chez Haruhi et se positionne devant une sorte de porte beige. Elle est à l'arrière-plan dans une chambre grise. Elle est tout habillée de gris. Ils vont ensuite s'asseoir tous les deux dans une pièce. Il est sur un fauteuil rouge, il est en rouge. Elle est sur un fauteuil gris, elle est en gris. Ils vont essayer de renouer l'un à l'autre en discutant de la possibilité que la mort ça soit surmontable, etc., etc. Ça ne marche pas. Elle retourne à l'arrière-plan. Donc en plus, le plan est coupé en deux, si vous voulez, par la porte beige qui vient vraiment séparer, comme s'il y avait une distinction de nature entre les deux, entre les vivants et les morts. Elle retourne vers la pièce grise, comme si elle faisait corps avec l'espace. Et ça implique deux choses qui m'intéressent dans le film. Bah, d'abord, c'est que quand on est mort, littéralement, comme tu le disais, on est cadré, c'est-à-dire qu'on rentre à l'intérieur d'un cadre dans le cadre. Le film ne fonctionne que par système de surcadrage. Or, c'est quoi ces cadres dans le cadre? Bah, c'est l'intérieur de l'ordinateur. L'espace qui serait derrière l'écran d'ordinateur et qui serait peuplé par les fantômes. C'est pour ça que toutes les pièces où les fantômes apparaissent sont des pièces fermées sur elles-mêmes, parce qu'elles prennent la forme de l'espace du processeur informatique, si vous voulez, derrière l'écran de l'ordinateur. Et cette logique-là, elle est quasiment systématisée dans la quasi-totalité des scènes qui mettent en scène des contaminés dans le film. Donc ça, c'est très, très rigoureux. Et par ailleurs, il y a un autre élément, c'est que quand on est contaminé, on finit par faire corps avec l'espace. Comme je l'ai dit, elle est habillée de gris, elle fait corps avec le décor gris. Et qu'est-ce qu'on devient au terme de ce processus de contamination? On devient rien qu'une tache sur le mur avant de se disséminer dans l'espace. Et ça, c'est montré très clairement avec la mort de Junko, mais c'est aussi montré de manière très nette avec ce plan assez fascinant d'une boucle de vidéo informatique avec un type qui marche de la droite vers la gauche de l'écran et qui, au milieu de l'écran, disparaît et réapparaît comme s'il avait fait corps avec l'espace pendant une demi-seconde. Et ça, c'est d'ailleurs présent dans d'autres films de Kiyoshi Kurosawa. À partir du moment où on fait l'expérience de la mort, on est comme vidé de sa substance intérieure et on devient un être sans épaisseur. Donc ce qui est très beau, finalement, dans le film, c'est que cette trajectoire des personnages du début à la fin du film, c'est une révélation, pour le spectateur, de la nature réelle d'un personnage de cinéma. Un personnage de cinéma, c'est un être sans épaisseur, qui est projeté sur un écran. Tout le film ne fait que montrer que ces personnages qui se croient vivants vont se révéler n'être que des êtres d'écran, si vous voulez, que des êtres sans épaisseur.
Mais alors moi, ce qui m'intéresse, c'est que si on t'écoute, et si on regarde le film, à vrai dire, y a une forme de cohérence, mais en même temps qui se marie. Alors, le film est presque proportionnellement aussi rigoureux dans sa mise en scène que chaotique, pour être gentil, dans sa narration, puisque c'est quand même très confus, cette histoire. C'est-à-dire, il y a un moment, même, le film le dit presque de manière très ironique et un peu drôle. C'est-à-dire qu'il y a un étudiant qui s'imagine comment tout ça aurait commencé, et il se dit... ce serait un dispositif bricolé avec les moyens du bord. Bah, le film est un peu ça. C'est un dispositif bricolé avec les moyens du bord d'un point de vue narratif, puisque, en fin de compte, et je pense que c'est très important pour comprendre et apprécier le film, même, puisque je pense que ça peut être un obstacle à l'appréciation du film, il faut bien comprendre que le film n'obéit pas à une logique narrative. Exemple, enfin, je suis désolé, quand vous cherchez quelqu'un et que vous ne regardez pas la tête et vous dites « Tiens, il y a une usine désaffectée, si on l'a visitée, ça n'a quand même strictement aucun sens. » En revanche, il y a une logique formelle dans cette scène. C'est qu'est-ce qui se passe? On est devant un rectangle lumineux, donc qui est une porte, qui est l'équivalent d'un écran aussi. Il y a un appel à y aller. Et qu'est-ce qui se passe quand on va dans ce lieu? Il y a une répétition justement de la scène précédente, à savoir la jeune fille porte un sac en plastique et se tue de la même manière. Donc il y a une logique formelle de la même manière que, question toute bête, pourquoi diable les fantômes ont besoin d'un ruban adhésif rouge? Bah parce que c'est rouge, simplement. Il y a une logique purement plastique. Ça a du sens d'un point de vue formel, si vous suivez le découpage, si vous suivez la couleur, si vous suivez la composition. Mais d'un point de vue de récit, même, j'en discutais avec Thomas quand les lumières sont allumées, je crois avoir compris, au bout du troisième visionnage, ce que veulent exactement les fantômes. Mais je peux vous poser la question, qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Parce que, à la fois, ces zombies de Romero, de manière assez claire, c'est-à-dire l'idée que l'enfer, en fin de compte, serait trop plein, donc les morts reviennent. Mais en même temps, le personnage féminin le pose à un moment la question, c'est pourquoi les fantômes voudraient-ils nous tuer s'ils n'ont plus assez de place chez nous? Visiblement, moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est un espèce de complot des fantômes pour dématérialiser les humains plutôt que les tuer pour pouvoir être tranquilles dans leur espace. Enfin, je pense que si on essaye vraiment d'être vraiment pragmatique, prosaïque, et essayer de comprendre d'un point de vue logique ce qu'essaieraient de faire les fantômes, ça serait à peu près ça. Mais c'est pas très clair.
C'est pas très clair, et puis il en joue, puisqu'il y a quand même un personnage qui dit à la fin de son explication, mais ce n'est qu'une hypothèse, et puis il laisse tomber l'histoire. Narrativement, enfin, le film n'a pas d'intérêt à suivre un fil narratif précis, si vous voulez, puisque l'intérêt de Kiyoshi Kurosawa, c'est que le spectateur, au bout d'un moment, a une sorte de recul par rapport au fil du récit, et ne s'intéresse qu'au phénomène plastique qui, en fait, dicte l'avancée de l'histoire. Donc, ce qui l'intéresse au fond, c'est de donner des indices à son spectateur pour qu'il sache où regarder et comment regarder. Par exemple, il y a une scène qui est toute bête, un plan que j'adore, parce qu'au fond, c'est quasiment un dépliage du film en une seconde et demie. C'est quand le jeune homme se trouve dans la bibliothèque, il est en train de chercher à rouer, enfin on ne sait pas très bien ce qu'il fait, il est perdu dans la bibliothèque, et il y a un panneau qui indique la sortie. Le plan est coupé en deux par une ligne verticale, logique de seuil, passage du fantastique, enfin, logique du seuil du fantastique, c'est-à-dire passage du réel à un monde...
Au merveilleux,
disons, voilà. Et un panneau qui indique la sortie. Il y a deux kanji, le premier a une forme, je ne saurais pas trop dire, une sorte de forme de trident, le deuxième, c'est un carré, avec une flèche qui indique que pour sortir, il faut aller vers le carré. Il sort dans la direction du carré, contre-champ, on voit une femme qui pousse un chariot avec un bruit de fantôme qui part dans la même direction. Sachant que, qu'est-ce qui se passe? Il sort par la droite de l'écran, elle rentre par la gauche de l'écran. Ce qui fait que ça rejoue la logique de boucle qui est dans les vidéos internet qu'on voit au début, puisque vous avez, par exemple, celle de l'homme avec le sac poubelle sur la tête, il sort par la droite de l'écran pour réapparaître par la gauche.
Ça, c'est très bizarre, j'ai l'impression qu'il y a un miroir aussi dans l'espace où il est, puisqu'il y a un espèce de reflet vers la droite. Le problème, c'est comme l'image est tellement... flou et un peu imprécise, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Mais oui, ça joue sur un effet de désorientation, puis en plus, il y a ces inscriptions rouges. Il y a même cette... On peut le lire comme ça, même en extrapolant un peu, mais même le sac plastique forme une espèce de silhouette, de masque étrange, enfin voilà. Tout ça, il y a presque une aussi... Je pense que le film aussi fonctionne là-dessus, sur une espèce de saturation de sens, de signification possible, qui nous désoriente un peu. Mais il est vrai que le film, par moments, ressemble un peu à... un bricolage narratif, hein. C'est pas toujours très clair ce qui est en train de se passer, cette histoire de logiciel, de points fantômes. Moi par exemple, on se faisait la réflexion aussi avec Thomas, on sait pas d'où vient la première dame qui est en train de mettre son ruban adhésif. Je sais pas exactement où ça se passe, je sais pas pourquoi elle la remarque, mais c'est intéressant parce que ça n'obéit qu'à une logique vraiment de pure mise en scène. De la même manière, on peut se dire pareil, on vient de quitter l'appartement d'un suicidé, pourquoi on s'arrête devant une porte avec du ruban adhésif, on l'enlève et on va à l'intérieur, alors qu'il n'y a rien dans la pièce, il y a juste un canapé. Voilà, je pense que sur ça, je sais que ça peut être des formes d'obstacles, on va dire, à une lecture un peu trop terre à terre. Et je pense qu'il faut vraiment quelque part lâcher la bride, quoi. Comprendre que le film obéit à une logique purement formelle, parfois même un petit peu abstraite. Et je pense que c'est au fond pareil sur Hiroshima, c'est-à-dire qu'on peut faire une leçon sur le refoulement de la mort, et en même temps la mort est omniprésente. Tu disais la dématérialisation des corps, et en même temps leur inscription dans l'espace. Enfin, parfois le film n'est pas toujours d'une suprême cohérence si on voudrait glosser sur ces motifs, mais en revanche, quand on suit vraiment une pure logique de mise en scène, bon, tout cela fait quand même sens, tout cela est guidé par une rigueur et une forme de prolongement, ce qu'on expliquait au début, des principes un peu fondamentaux du cinéma horrifique qui sont actualisés et qui sont sur d'expérimentation.
Oui, je suis d'accord. Après, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que c'est là où on voit le legs assez discret, mais présent, de l'héritage moderne chez Kurosawa. C'est-à-dire que c'est un cinéaste qui fonctionne par disjonction de séquences, qui fonctionne par contradiction d'un plan avec l'autre. Il n'y a pas la tenue de récit, si vous voulez, classique, qui serait la marque de ces cinéastes de genre américains qu'il adore.
C'est intéressant, d'ailleurs, parce qu'il faut préciser que ce film-là et donc Ring, qui sont vraiment qui ont des liens communs, et en plus, il me semble que Nakata et Kurosawa ont discuté de leurs projets respectifs pendant un certain nombre d'années, mais c'est des films qui ont fait l'objet de remakes américains. Et alors moi j'ai pas vu celui de Cairo parce qu'apparemment c'est une purge, je crois que personne dit que c'est bien, et en tout cas c'est déjà le cas dans le remake de Ring par Gore Verbinski, c'est qu'il y a quand même une volonté un petit peu de rendre plus rond la logique narrative, le scénario, etc., parce qu'il y a une forme d'étrangeté inhérente au film qui est difficilement transposable dans on va dire dans notre mode de compréhension classique de spectateur occidental, pour grossir voilà un peu le trait, et qu'il reste une forme d'étrangeté même dans ce générique final, cette tonalité très pop avec cette chanson, c'est vrai que c'est un peu incongru.
Ça peut être incohérent si on veut. Et après, il faut pas oublier, voilà, Kurosawa, ses premiers films, notamment ceux qu'il faisait dans les années 80, c'était des pastiches de Godard. Donc il y a toujours des restes, si vous voulez, du goût de la disjonction godardienne. Bon, c'est très léger, c'est un peu superficiel dans celui-là. C'est plus fort dans ses films précédents, par exemple dans Charisma ou Cure, qui sont des films qu'il réalise un tout petit peu avant, qui sont plus radicaux dans leur n'importe quoi narratif, si vous voulez. Mais là, on le sent un petit peu. Par exemple, il y a un truc typiquement godardien. Il coupe des musiques brutalement d'une scène à l'autre sans raison. Voilà. Ça, c'est un pastiche godardien qui est très net. Le film, de toute façon, fonctionne un peu sur un réseau de références très discrètes qui en font un objet un peu bizarre. Parce que, comme tu l'as dit, bon, narrativement, il y a du zombie très clairement. Je vous ai dit qu'il y avait Vaudou de Tourneur. Il y a plein d'éléments qui renvoient aussi à Carpenter. Bon, ça mélange plein de choses, si vous voulez. Donc c'est en cela aussi un objet qui relève tout à fait de la postmodernité, et on voit le legs de la pensée française, de la French Theory, sur le travail de Kurosawa à ce niveau-là.
Eh bien écoutez, merci beaucoup. Alors je vous annonce pas encore tout à fait la séance du mois prochain, parce que ça dépend de films qu'on va voir bientôt. Ce sera donc visiblement, je pense, un peu plus tôt, pour éviter de se voir à Noël. Donc ce sera plutôt la troisième semaine de décembre. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt.
Merci beaucoup.